Vous êtes donc tous là. Voilà, je voulais vous remercier d'être là. Voilà, je voulais vous remercier d'être là, et pour vous remercier d'être là, je voulais qu'on s'applaudisse, parce que si ces rencontres ont une qualité, c'est qu'on y soit et qu'on y contribue. Voilà, alors si on peut faire un petit applaudissement pour nous. Pour nous, tard le soir, là, effectivement, un petit peu fatigué. Jean-Louis, tu nous excuseras, ça fait 2 jours pleine balle. Hein. Tu nous connais au CME, on n'arrête pas. Hein. Donc voilà, et puis te remercier, toi en particulier. Un autre petit applaudissement pour Jean-Louis. Voilà, qui nous fait l'amitié depuis maintenant plusieurs années hein, de venir partager ses réflexions, ses recherches, ses travaux sur l'économie sociale et solidaire avec nous, les CMEA, mais aussi avec une communauté élargie, c'est le cas aujourd'hui. Donc pour ma part, je suis vraiment très contente que tu sois là et sincèrement, merci.
Merci Anne-Claire, merci à tous et à toutes d'être là. Effectivement, ça fait 2 jours qu'on est là, ça fait 2 jours qu'on a travaillé ensemble. Et dans l'introduction de la plaquette qu'on vous avait envoyée pour proposer ces rencontres européennes du social, on rappelait que l'avènement des politiques économiques libérales ont pour conséquence une vague d'austérité forte, limitant ainsi les services publics et favorisant parallèlement le recours au privé. Ces choix économiques fragilisent l'accès au travail et aux droits sociaux à travers une plus grande flexibilité et une précarisation plus forte. Et donc c'est dans ce contexte instable que de nombreux citoyens et citoyennes ont décidé de s'organiser pour faire entendre leur voix. On peut se rappeler l'Espagne, la Grèce, Nuit Debout, aujourd'hui les Gilets jaunes, on en a parlé à plusieurs reprises durant ces rencontres. Et ces citoyens, ils invitent les pouvoirs publics, mais aussi les acteurs économiques, à ne pas faire sans eux et sans elles. Ces collectifs sont plus ou moins organisés, mais ils affirment vouloir participer à l'émergence d'un nouveau modèle socio-économique et une nouvelle forme de démocratie plus directe et plus participative. Depuis 2 jours, ici, maintenant, dans les tables rondes et dans les ateliers de partage de pratiques, nous débattons, partageons des expériences qui nous confirment cette analyse et qui proposent même d'autres manières de faire société à partir d'une nouvelle forme, d'une nouvelle façon d'envisager la démocratie représentative et participative dans un contexte certes de tension où ici ou là, des associations et des ONG ont du mal à pouvoir travailler et faire vivre des espaces de vivre ensemble. On a eu le témoignage assez éloquent de nos camarades de Hongrie. C'est un exemple vivant et inquiétant. Et pourtant, et malgré cela, des expériences vivantes existent et confirment le besoin et l'envie d'habitants et d'habitantes. On l'a vu l'exemple du Mirail à Toulouse, ou du réseau wallon de lutte contre la pauvreté, ou du quartier Wedel à Hambourg. Des exemples de patients, avec l'exemple du MAPSI ou des rencontres vidéo en santé mentale, de jeunes, comme les exemples que nous a présenté Graines de Paix en Algérie, cette volonté de faire émerger d'autres formes de vie ensemble, où la question économique est traitée d'une manière différente que l'approche libérale. On a eu l'exemple des monnaies citoyennes, par exemple, dans ces rencontres. La volonté de repositionner les citoyens en responsabilité est réaffirmée et les messages qui sont envoyés dans les regroupements, les manifestations, nous le crient chaque jour. Comment pouvons-nous comprendre ces mouvements sociaux ? C'est ce que nous allons tenter ensemble de gratouiller ce soir, grâce à Jean-Louis Laville, qui est donc professeur au CNAM et qui est titulaire de la chaire économie sociale et solidaire. Et la question qu'on lui a posée est à la fois très simple et très compliquée. Il a déjà tenté d'y répondre à travers beaucoup de livres, et notamment un que vous retrouverez à la sortie, qui s'appelle « Mouvements sociaux et économie solidaire ». Et donc la proposition qu'on a fait à Jean-Louis, c'est pendant un petit temps d'essayer de nous rappeler c'est quoi un mouvement social, c'est quoi des mouvements sociaux, c'est quoi, où est-ce que ça s'origine, de pouvoir faire ce lien aussi avec la question de l'économie sociale et solidaire, qui est une autre manière de voir la question d'être ensemble et de créer de la richesse, et puis d'en parler au niveau européen, mais plus largement au niveau mondial, parce qu'actuellement, tu disais, tu travailles beaucoup avec des collègues brésiliens et l'Amérique du Sud aussi sur les questions qui se vivent là-bas. On a l'exemple précis du Brésil qui va vivre une transition complexe sans doute au mois de janvier. Et donc, Tu avais invité un collègue à être là ce soir, mais il doit reprendre l'avion demain matin, donc c'était un peu juste. Mais voilà, il a sans doute aussi échangé beaucoup avec toi sur ces questions-là. Et c'est avec un grand plaisir qu'on te laisse la parole pour nous exposer un peu ta vision, ton regard, à la fois historique et puis aussi des perspectives que tu peux nous dresser pour continuer à nous nourrir et enrichir nos débats jusqu'à demain midi. Merci beaucoup.
Donc on va essayer de débattre à partir de maintenant jusqu'à demain midi, si j'ai bien compris le planning.
Ah oui, pardon, oui, c'est ça.
Oui, c'est ça. Donc c'est la relance de Nuit Debout. D'abord, merci de votre accueil. Et puis, je vous propose peut-être de présenter quelques hypothèses de manière un peu schématique pour qu'on ait ensuite le temps d'en débattre. La première hypothèse que je voudrais présenter, c'est l'hypothèse selon laquelle nous assistons peut-être à l'effritement du modèle qui était en vigueur et dominant dans le monde entier depuis plusieurs décennies, qui est le modèle néolibéral. J'y reviendrai tout à l'heure parce qu'il est assez différent du modèle libéral. Et donc ce modèle néolibéral, il a entraîné de la souffrance, il a entraîné de la dégradation des conditions de vie. Et pendant longtemps, les plaintes sont restées silencieuses. Ce que l'on voit dans différents contextes, mais on le voit avec une actualité brûlante en France, c'est que ceux qui étaient restés silencieux, soudain, expriment l'exacerbation de leurs inquiétudes, de leurs doutes sur là où on va et aussi de leur colère. Alors, l'hypothèse que je voudrais essayer de débattre avec vous, c'est que cette fin du néolibéralisme, si on l'appelle comme ça, c'est le titre que j'ai donné à la Tribune pour Libération aujourd'hui sur cette thématique, si c'est bien la fin du néolibéralisme, ou du moins l'effritement du néolibéralisme, ça peut aller vers la régression autoritaire ou vers l'avancée démocratique. Et on voit bien que les deux scénarios sont possibles et que même le premier est le plus probable. Donc, la fin du néolibéralisme ne signifie pas forcément un progrès démocratique. Il peut, et là, on va reparler du cas brésilien, il peut aussi signifier une régression autoritaire. Et à ce moment-là, c'est vrai qu'il faut retenir, je crois, les leçons des années 30 que Polanyi nous a enseignées à travers son magnifique ouvrage « La grande transformation ». C'est-à-dire que quand on a une société qui est trop exclusivement organisée autour des règles du marché, ça peut générer tellement d'incertitudes, de colère, que le risque, c'est que ce soit capté par des démagogues extrémistes et que ce soit eux qui proposent un horizon apparent de sécurité qui ait un certain écho dans la population. Donc je pense que nous sommes rentrés dans une zone dangereuse qui n'est plus le néolibéralisme en lui-même, mais qui peut être une transition vers un régime plus autoritaire ou vers un régime plus démocratique. C'est de cela dont je voudrais discuter à partir donc d'éclairages qui viennent d'un travail que nous avons commencé avec un certain nombre de collègues européens et sud-américains, même si d'autres continents ont participé plus ponctuellement. Ça résulte d'une rencontre au Forum social mondial de Porto Alegre en 2001, qui nous a amené à entamer un travail de coopération et d'écriture en commun, en particulier partagé entre l'Amérique du Sud et l'Europe. Et donc nous avons voulu avoir des rencontres régulières, plusieurs fois par an, pour se donner le temps de se comprendre et d'essayer de présenter des publications qui sont à la fois éditées en Amérique du Sud et éditées en Europe. La première publication que l'on a fait en 2006 pour ce qui est de l'édition française, c'est le dictionnaire de l'autre économie, pour montrer que aujourd'hui, contrairement à ce qui est souvent dit, plus de la moitié de la planète vit autrement qu'avec le capitalisme marchand. Et donc ce qu'on nous présente comme un système unique, en fait, ne fait pas vivre la moitié des gens qui vivent sur notre planète aujourd'hui. Et donc il faut essayer de reparler aussi de ces formes d'économie qui ont été invisibilisées, mais qui pourtant existent, permettent aujourd'hui à des continents entiers, on pourrait parler de l'Afrique, de s'en sortir plus ou moins bien, plus ou moins mal, mais c'est quand même ce qui constitue le quotidien. Le deuxième ouvrage qui a été fait, c'est un ouvrage qui est un peu interrogé par la conjoncture actuelle, puisque c'est un ouvrage sur les gauches du XXIe siècle pour un dialogue Nord-Sud. Hein. Et c'est vrai que je pense que nous devons aussi, en particulier en France, nous ouvrir à ce dialogue Nord-Sud. Pourquoi ? Parce que la première fois que j'ai présenté cet ouvrage sur Mediapart, les premières réactions ont été « Mais pourquoi on irait parler d'Amérique du Sud, on est en France ici ?» Ben justement, je crois que nous ne sommes plus dans ce monde occidentalo-centré d'hier. Nous sommes aujourd'hui dans un monde dans lequel il me semble que des expériences d'autres continents, et il y a eu quand même tout un mouvement de démocratisation en Amérique du Sud pendant une vingtaine d'années, doivent être intégrées à notre patrimoine de réflexion, et j'essaierai d'en dire quelques mots. C'est pour ça que je ne vais pas simplement aborder l'Europe, mais aussi parler de ce qui se passe en Amérique. Et puis, le troisième ouvrage, donc c'est celui qu'on vient de faire aussi dans les deux continents, autour de mouvements sociaux et économie solidaire, et c'est sur celui-là qu'on va centrer pour le début de notre discussion. Il y a eu, dans les années 1970-1980, l'apparition de ce que l'on a appelé à l'époque, ça paraît déjà lointain, les nouveaux mouvements sociaux. Ces nouveaux mouvements sociaux ont été des mouvements qui ont déplacé le curseur par rapport à ce qu'on considérait la lutte centrale qui structurait la société, la lutte des classes entre capital et travail. Ils ont décentré l'attention vers d'autres préoccupations. Hein, et ces nouveaux mouvements sociaux ont été interprétés comme des mouvements qui étaient moins matérialistes et des mouvements qui ouvraient sur des demandes d'un autre ordre, qui n'étaient pas des demandes de rémunération, mais qui étaient des demandes plus qualitatives, en particulier des demandes de participation dans différentes sphères de la vie sociale. Et on a qualifié donc ces mouvements de mouvements post-matérialistes, très souvent, c'est-à-dire qui voulaient justement dépasser les enjeux qui avaient été les enjeux principaux dans la société structurée par la lutte des classes. On a eu aussi ces mouvements sociaux qui ont été interprétés comme, et là c'est plutôt à partir des années 80, comme des mouvements qui manifestaient un tournant culturel. Hein, c'est-à-dire que ce qui a été mis en exergue dans ces nouveaux mouvements sociaux de la fin du XXe siècle, c'est le fait que ceux-ci étaient des protestations, mais qui mettait avant tout en avant les questions identitaires et les questions culturelles que certains groupes minoritaires voulaient voir reconnues. Donc c'était vraiment, on a parlé aussi beaucoup à l'époque de demande de reconnaissance ou de réaction contre le mépris. Donc il s'agissait véritablement de faire valoir des cultures, des identités qui avaient été non prises en compte précédemment. Donc l'interprétation de ces nouveaux mouvements sociaux tournaient autour de cette dimension de protestation, de post-matérialiste et de culturel. Quand on regarde, tu en citais quelques-uns en Europe, ce qui s'est passé avec le 15e, ensuite avec les événements en Espagne, comme si on regarde ce qui s'est passé en Turquie, ce qui s'est passé en Tunisie, ce qui s'est passé dans différents pays européens ou ce qui s'est passé en Amérique du Sud, on constate que les mouvements des années 2010 ne sont plus les mouvements que l'on appelait les nouveaux mouvements sociaux à la fin du XXe siècle. Et ils ont pris de nouvelles façons de faire. Si on reprend la littérature sur les mouvements sociaux contemporains, on voit que plusieurs traits sont mis en avant. Le premier trait, c'est que beaucoup de ces mouvements sont appelés des mouvements préfiguratifs. Hein, c'est-à-dire que, au lieu d'avoir le registre protestataire habituel, hein, qui vraiment était le plus important auparavant, il y a l'idée dans ces mouvements de travailler sur des formes d'organisation qui anticipe le monde que l'on voudrait voir advenir. Hein? C'est-à-dire qu'il s'agit de s'organiser, par exemple, sur les places, d'une façon qui, par les discussions démocratiques et les délibérations qu'elles permettent, nous ouvre déjà au monde que nous voudrions voir s'installer, qu'il soit un monde plus démocratique. Hein? Donc ces mouvements sont préfiguratifs, mais ces mouvements, et là on le voit par exemple, les deux premiers chapitres de l'ouvrage sont consacrés à deux grands mouvements d'Amérique qui sont le mouvement zapatiste et le mouvement des Sans-Terres. Ces deux mouvements ne correspondent pas à des mouvements qui soient identitaires et culturels. Ce sont des mouvements qui ont d'autres aspects, en particulier l'ancrage sur un territoire, hein, c'est-à-dire la volonté, au-delà de la préfiguration, de faire vivre, au moins partiellement, des nouvelles façons de faire, des nouvelles façons d'agir qui vont commencer à irriguer sur un territoire. Et donc, il y a la question de comment est-ce qu'on s'organise par rapport à un territoire, ce qui ne faisait pas vraiment partie du répertoire de mouvements sociaux plus anciens. Et puis, ce qui est très surprenant aussi pour les analystes, c'est que cet ancrage dans le territoire est lié aussi à la question du fonctionnement d'une autre économie. Et ça, on le retrouve constamment dans les textes du mouvement des Sans-Terres. On le retrouve aussi de manière récurrente dans les textes des zapatistes, mais ça a été peu souligné par les analystes occidentaux. C'est-à-dire qu'il s'agit évidemment de faire vivre des revendications politiques, mais de les articuler à des manières de poser les actes d'une autre économie. Et là, si vous voulez, on voit qu'on a une difficulté. C'est pour ça qu'on avait mis en sous-titre de notre ouvrage « Et si les pratiques étaient en avance sur les théories ?» Parce qu'en fait, on voit bien que cette pluridimensionnalité, mouvement préfiguratif, lien au territoire, lien à une autre économie, c'est très difficile d'en rendre compte dans les études qui sont consacrées à ces mouvements. Et on peut, à ce moment-là, s'interroger sur comment est-ce que l'on en est arrivé à une telle coupure entre, par exemple, les questions qui sont les questions que l'on considère comme étant celles de la sphère politique et les questions que l'on considère comme devant être traitées au sein de la sphère économique. Et là, je crois que on peut essayer de refaire, rassurez-vous, je vais être rapide, une histoire de ce que l'on a appelé les mouvements sociaux. Et je crois qu'il est pertinent de ce point de vue-là de retrouver d'abord une mémoire dont nous avons été privés. C'est-à-dire toute une histoire qui a été une histoire occultée à la fois par l'histoire officielle du marxisme et à la fois par l'histoire officielle du libéralisme. Et cette histoire oubliée, c'est celle que beaucoup d'historiens qualifient désormais de l'histoire du premier 19e siècle, l'histoire de ce que l'on pourrait appeler un associationnisme. Et comment cet associationnisme pionnier s'est inscrit dans l'instauration et dans le prolongement des régimes démocratiques. Alors là, je vais peut-être revenir au cas français à travers les slogans « liberté, égalité, fraternité » qui sont pas simplement des slogans, mais l'idée de ces premiers mouvements associationnistes, c'était de dire, voilà, les principes politiques que nous venons d'admettre ne sont pas réalisés dans la société. Parce qu'il ne suffit pas qu'ils soient admis comme étant l'horizon de la République, encore faut-il qu'il puisse être mis en œuvre concrètement. Et donc, les associations, au départ, se mettent en place pour que les principes politiques démocratiques se mettent en place dans la vie quotidienne. Et donc, l'associationnisme pionnier va avoir comme caractéristique d'être multidimensionnel, c'est-à-dire de faire qu'il y a à la fois des gens qui défilent dans les rues pour réclamer des changements dans les lois, dans les règlements, Ces mêmes personnes essayent aussi de mettre en place des formes de sociétés de secours mutuels dans la suite des corporations pour ce qui est de l'espace français, et les mêmes essayent de mettre en place des activités productives qui soient dirigées par le travail. On peut se rappeler les canuts ou d'autres manifestations dont on a entendu des bribes. Et donc, ce qui est important dans cet associationnisme, vous le voyez, par rapport aux coupures qui se sont introduites après, c'est que le mouvement est indissociablement politique et économique. La solidarité démocratique qui est mise en place dans cet associationnisme, c'est une solidarité qui vise à la fois à conquérir des libertés politiques plus fortes et en même temps organiser des activités économiques. Et ça fait partie du même mouvement. Et c'est ça que amène, par exemple, Leroux d'introduire en français philosophique moderne la notion de solidarité en 1840. Ce qu'il appelle solidarité, c'est pour lui ce qui succède à la charité en démocratie, c'est-à-dire le lien social volontaire que tissent entre eux des citoyens libres et égaux en droit. Et donc il y a une première version de cet associationnisme solidaire qui mêle véritablement ce qui est de l'ordre de l'économique et du politique. Ceci va être brisé dans le second 19e siècle. Si on suit toujours Hobsbawm, il contraste le premier 19e siècle qu'il appelle l'ère des révolutions avec le second 19e siècle qu'il appelle l'ère du capital et des empires. On voit bien que à partir, et la date européenne pivot, c'est 1848, c'est-à-dire à la fois la répression de ce mouvement d'auto-organisation de la société, mais aussi son invalidation symbolique. C'est-à-dire que le discours qui se développe à partir de 1848, c'est que l'associationnisme était soit une manifestation naïve, utopiste, qui a échoué. Ça, c'est l'interprétation libérale, hein, qui nous dit la véritable association de notre temps. Je cite un libéral de 1840, c'est la société de capitaux. Donc, il faut aller vers la société de capitaux et toutes ces rêveries qui étaient celles de l'associationnisme ne sont pas du tout adaptées parce qu'elles ne permettent pas de développer l'économie. Elles sont finalement des écueils par rapport à ce qui doit être notre préoccupation principale, le développement économique. Mais il y a aussi l'interprétation de Engels qui nous dit c'est la maladie infantile du mouvement ouvrier. Donc à partir de cela, vous voyez bien qu'il n'y a pas simplement une répression, il y a aussi une invalidation de l'associationnisme comme relevant de manifestations immatures et utopistes. Engels oppose bien le socialisme utopique au socialisme qu'il appelle scientifique. Donc, à partir de ce moment-là, et c'est là où va s'opérer une scission dont nous subissons encore les conséquences, c'est que d'un côté, et ça, ça va se passer dans tout le second 19e siècle et se prolonger dans le 20e siècle, d'un côté, il y a un mouvement social qui s'organise de plus en plus et qui va devenir le syndicat, et de l'autre côté, il y a ce qui reste de l'associationnisme au niveau économique, c'est-à-dire les statuts de l'économie sociale qui vont être reconnus au cours du temps, associations coopératives mutuelles. Mais vous voyez bien que, ça y est, la césure entre les deux est établie et qu'on vise du côté de l'économie sociale une entreprise collective, mais on ne parle plus de mouvement. On vise du côté du mouvement la prise du pouvoir d'État, mais on ne parle plus d'activité économique. Et ça, ça va gouverner nos façons de voir les conflits dans la société jusque dans la seconde moitié du XXe siècle, puisqu'on va rentrer dans un siècle avec le XXe siècle dans lequel, de toute façon, les débats économiques et politiques sont organisés autour du dualisme État-marché. C'est-à-dire que tout ce qui est de l'ordre de l'associationnisme a disparu et qu'il y a vraiment cette division entre d'un côté un mouvement qui prend en particulier les formes syndicales, même si c'est plus large, et de l'autre côté, la tentative d'une économie sociale, mais qui reste assez marginale, qui reste un secteur périphérique par rapport aux deux grands piliers qui organisent notre société, qui sont le marché et l'État, et qui, aussi est divisé, puisque les coopératives sont en concurrence sur le marché avec des entreprises capitalistes, et les associations sont plutôt enrôlées dans les politiques de l'État social. Ce qui se passe dans la fin du XXe siècle, c'est d'une certaine façon un premier bouleversement qui vient aussi, je crois, de ce qui était l'arrière-plan de cette manière de penser autour du marché et de l'État, c'est-à-dire une idéologie productiviste qui s'était établie dès le second XIXe siècle et qui a gouverné jusqu'aux Trente Glorieuses, ce que l'on a appelé les Trente Glorieuses après massacres de la Seconde Guerre mondiale. Et donc, on avait cette idée que on allait, avec les Trente Glorieuses, on allait vers un monde meilleur. Nos enfants vivraient mieux que nous. Et ça, c'est parce qu'on avait trouvé une nouvelle articulation marché-État social qui était reconnue, par exemple, dans la déclaration de Philadelphie qui a fait consensus au niveau international dès 1944. La déclaration de Philadelphie, j'en rappelle les termes, le développement économique ne vaut que s'il est au service du développement social. Donc on reconnaît qu'il faut donner plus de place au social au sortir de la Seconde Guerre mondiale pour avoir un compromis qui soit un compromis plus stable et qui ne nous interdise de revenir aux dérèglements qui ont été ceux des années 30 qui ont conduit à la Seconde Guerre mondiale. Donc on avait un système très très fort, mais qui a donné la priorité à ce qu'était la négociation, la démocratie représentative, pour partager justement la valeur ajoutée qui était dégagée par l'économie marchande et qui permettait de satisfaire un certain nombre de demandes matérielles dans un prisme qui restait un prisme globalement productiviste. C'est ça que les nouveaux mouvements sociaux commencent à fissurer, en particulier à travers certains des mouvements. Évidemment, on peut en citer deux parmi les plus importants de l'époque. Le mouvement écologique, qui montre bien qu'il y a une question qui n'est pas traitée, qui est celle de la compatibilité entre un système économique basé sur l'expansion sans fin et les limites de la planète, et le mouvement féministe aussi, qui va, avec un certain nombre de mouvements d'usagers, remettre en cause le paternalisme résiduel de l'État social, c'est-à-dire cette façon qu'a l'État social de ne pas véritablement considérer les usagers autrement que des assujettis, et de garder aussi des différences de genre au sein des droits dans l'État social qui posent problème. Donc on a ces nouveaux mouvements sociaux qui, effectivement, sociaux restent des déclencheurs de l'action collective, mais cette action collective se fait très souvent, et on voit qu'apparaissent les thématiques qui sont prégnantes aujourd'hui comme celles du territoire, au niveau local, de façon plus liées à des actions locales, moins agrégées au niveau national. Et on a donc ce que l'on pourrait appeler un foisonnement d'initiatives citoyennes, mais qui ont beaucoup de mal à se regrouper ensemble, puisque les gens, c'est ce qui a été mis en évidence dans beaucoup d'écrits sur les évolutions de l'engagement, voire la fin du militantisme, c'est-à-dire cette difficulté à finalement se rassembler autour de causes communes et plutôt la volonté d'approfondir des actions qui sont des actions concrètes et des actions locales. Donc on est dans un paysage qui est un paysage déjà très complexe, puisqu'on a les mouvements sociaux plus traditionnels, les nouveaux mouvements sociaux qui pour partie se sont convertis en une myriade d'initiatives citoyennes un peu éclatées sur l'ensemble des territoires concernés. Et ce qui se passe à ce moment-là, c'est qu'il y a l'irruption de notre façon d'envisager les rapports entre économique et social qui sont proposés par les grands auteurs qui vont être les théoriciens du néolibéralisme. Si on reprend Hayek et Friedman qui ont été les théoriciens de ce néolibéralisme, on peut retenir quand même trois idées fortes qui vont avoir une influence très importante. Première idée, il faut réduire le domaine et le périmètre d'intervention de l'État, puisque celui-ci génère de la bureaucratie, est un frein à la compétitivité, donc il faut réouvrir à la concurrence, déréguler un certain nombre d'activités qui avaient été intégrés à l'État social. Ça, c'est assez bien connu du point de vue du néolibéralisme. Deuxième point qui mérite d'être souligné, c'est que le néolibéralisme cherche également à affaiblir tous les regroupements, et en particulier les regroupements de type syndical, en considérant que ceux-ci sont aussi, par les demandes indues qu'ils formulent, des gênes pour faire fonctionner un système économique qui doit être basé sur la concurrence, qui soit une concurrence sans intermédiaires qui viennent la gêner. Et troisième élément tout à fait complémentaire des deux premiers, c'est que le néolibéralisme propose de reconfigurer les associations uniquement comme des prestataires de services à bas coût dans un tiers secteur qui finalement constituerait un état social à moindre coût. Et donc on voit bien qu'il y a une logique qui s'installe avec le néolibéralisme, qui va faire qu'il va y avoir des tensions avec les mouvements sociaux et les actions citoyennes, et qui va être reformulé dans la première décennie du XXIe siècle avec l'apparition de ce que j'appellerais une deuxième vague de néolibéralisme, qui est un néolibéralisme qui va avoir comme différence par rapport au premier d'intégrer un discours sur le social. Et on voit bien que depuis quelques années, il y a un nouveau discours sur le social qui est de plus en plus important au niveau international, qui est un discours qui met en avant la possibilité d'organiser un capitalisme à but social. Je reprends là les termes de Younous, qui est l'un des principaux propagateurs au niveau planétaire de cette option, ou on pourrait prendre les termes qui sont utilisés en France par Borello ou d'autres, le capitalisme d'intérêt général, mais c'est à peu près la même chose. Donc il va y avoir tout un ensemble de méthodes qui vont être proposées pour essayer de répondre aux problèmes sociaux, pas simplement par le tiers secteur associatif, mais aussi par de nouvelles formules privées, qui sont les formules du social business, du capitalisme à but social, qui va être très fortement et de manière très cohérente articulée à la responsabilité sociale des grandes entreprises, articulée aussi à de nouveaux outils comme la venture philanthropie, la philanthropie plus soucieuse de rentabilité, et puis aussi de nouveaux outils comme les social impact bonds, les investissements à impact social, ou des nouvelles méthodes de marketing, comme les méthodes bottom of the pyramid, c'est-à-dire bas de la pyramide, qui vont essayer de voir comment est-ce qu'il est possible de couvrir le marché des pauvres. Donc vous voyez que tout ça fait système, et que la différence entre le premier néolibéralisme et le second néolibéralisme, c'est un discours explicite du social dans ce second néolibéralisme. Et ça, ça crée une nouvelle tendance au niveau international, c'est la réinterprétation, le reformatage des initiatives citoyennes dans les termes du social business. Et ça, on le voit peut-être plus dans d'autres continents comme le continent asiatique ou le continent sud-américain, mais aujourd'hui, il y a vraiment un discours d'interprétation sur ce qui émane de la société civile pour l'interpréter soit en termes de mouvement social et en termes d'initiatives citoyennes, soit pour l'interpréter en termes de social business. Donc je crois que soit on va avoir une dépolitisation de plus en plus grande de la discussion, en considérant que finalement le système économique peut générer ses propres réponses et ses propres réformes qui amènent à ce que, sans soulever de questions politiques, les questions sociales soient résolues, soit au contraire, on va aller dans le sens de la capacité à réunir à nouveau ce qui est de l'ordre du mouvement social et ce qui est de l'ordre d'une économie différente que celle organisée sur la base du système dominant. Et là, on a effectivement déjà, je pense, une approche qui va dans ce sens-là, qui est l'approche aujourd'hui désignée au niveau international, même s'il y a d'autres terminologies, comme l'approche de l'économie solidaire, qui se caractérise, je pense, sur le plan conceptuel, par la tentative de refaire un pont entre ce qui est de l'ordre du mouvement citoyen et ce qui est de l'ordre de l'activité économique, et qui passe, justement, très souvent dans la manière dont c'est réalisé, par l'ancrage sur un territoire. Parce que l'économie solidaire, si on veut synthétiser les approches dans différents pays, c'est une singularité autour de deux éléments. Premièrement, les initiatives citoyennes ne sont pas simplement des initiatives privées, contrairement à l'interprétation en termes de social business, ce sont des initiatives qui ont comme volonté de s'inscrire dans le débat public, d'avoir une dimension politique au sens, pas politicien, mais au sens vie de la cité, et qui, si des personnes se mobilisent autour de ces questions, c'est aussi pour que celles-ci soient réexaminées dans le débat public et puissent éventuellement entraîner des changements dans le cadre institutionnel, dans le cadre législatif. Et puis la deuxième chose, c'est que à partir des limites de l'économie sociale traditionnelle qui a uniquement visé à faire une entreprise différente, il y a aussi une question beaucoup plus globale qui est posée par l'économie solidaire, c'est mais de quel type d'économie parle-t-on ? Et là, il y a le lien avec tout un ensemble de théories économiques qui s'opposent à la théorie formelle orthodoxe. La théorie formelle orthodoxe, donc héritée du 19e siècle, c'est celle selon laquelle l'économie moderne, c'est le capitalisme marchand. Et donc l'approche substantive représentée par Polanyi, que je citais tout à l'heure, et par d'autres économistes et historiens, c'est l'idée de ce que l'économie humaine n'a jamais été représentée par un seul principe. Et à côté du marché, il y a d'autres principes économiques, les principes économiques de la redistribution, les principes économiques de la réciprocité, les principes économiques du partage domestique, et que ces principes restent des principes qui sont en vigueur aujourd'hui dans l'économie réelle. Simplement, l'accès à cette économie réelle est toujours partiel parce que ces éléments réciprocitaires, redistributifs, sont invisibilisés par une vision marchande. Et là, on pourrait lier ça à des enjeux très pratiques sur la manière dont on envisage les équilibres socio-économiques des associations et comment est-ce que ce raisonnement sur l'équilibre socio-économique et le modèle socio-économique des associations s'inspire soit de la logique orthodoxe, soit au contraire s'inscrit dans une logique plus substantive, plus ouverte à une pluralité de principes économiques et donc à une hybridation finalement de ressources économiques différentes. Donc on voit bien que dans un certain nombre d'actions citoyennes, il y a cette volonté, mais difficile en raison de l'histoire que je viens de retracer, de relier ce qui est de l'ordre du mouvement et ce qui est de l'ordre de l'activité économique pour donner au changement une vision plus, je dirais, à hauteur d'être humain, que la vision du changement social qui était perpétuée dans les mouvements sociaux qui visaient un changement global. Je pense que le défi auquel nous sommes affrontés aujourd'hui pour comprendre un certain nombre d'expériences, c'est de renoncer à cette idée du changement social qui nous permettrait d'aller vers un monde parfait, vers un monde qui serait un monde sans conflit, et au contraire de revenir à l'associationnisme initial d'une certaine façon, en disant ce n'est pas parce que des pratiques sont modestes, ce n'est pas parce que des pratiques sont impures, parce qu'elles ont toujours un aspect récupéré, un aspect instrumentalisé. Mais il peut y avoir des pratiques modestes, des pratiques impures, des pratiques qui effectivement sont plus de l'ordre de la transition que de l'ordre de la rupture, et ces expériences doivent être pleinement prises en compte au lieu d'être négligées comme elles l'ont été dans tout le XXe siècle. Et donc, c'est en fait peut-être autour de cette recomposition entre mouvements citoyens et activités économiques autour du territoire, peut-être une nouvelle modalité de penser le changement social qui est en train de se profiler. Mais elle est aujourd'hui contrecarrée par ce rouleau compresseur de la pensée en termes de social business, de capitalisme à but social, qui, si elle n'est que très peu présente sur le terrain, est surreprésentée au niveau médiatique, et c'est l'un des problèmes auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui, et elle a aussi des difficultés à résoudre, c'est-à-dire que Par exemple, nous avons aussi une difficulté à penser ce qui est de l'ordre des pratiques impures d'une part, mais aussi ce qui est de l'ordre de l'articulation entre les mouvements et les institutions. Très souvent, on a considéré que le contact avec l'institution ne pouvait être que de l'ordre de l'instrumentalisation. Et donc, il faut peut-être avoir des visions aussi plus complexes du changement social. Et là, je me rapporterai à tout un courant de recherche avec en France des gens comme Marion Carrel, Catherine Neveu, Loïc Blondiot, qui essayent de travailler justement à la jonction, à la frontière entre les mouvements et les institutions, hein, c'est-à-dire la capacité de certains mouvements à générer des changements institutionnels. Et ça, je pense qu'il y a aujourd'hui des laboratoires au niveau international qui vont dans ce sens-là, que l'on peut observer, c'est-à-dire des politiques locales qui essayent d'être conçues en liaison avec les mouvements du territoire. Et si on veut prendre un seul exemple, je pense qu'un certain nombre d'éléments de la politique de la ville de Barcelone aujourd'hui relèvent de cette dynamique, c'est-à-dire la conception d'une autre action publique. Mais on voit ça dans d'autres exemples. On peut voir comment, par exemple, au Québec, le nouveau service public est en fait l'addition des associations. Donc on peut aussi, au-delà des clivages habituels, penser une autre action publique par les associations, alors qu'on a souvent opposé les deux. Et donc ce qui se profile aussi, c'est une nouvelle manière de penser le changement social qui montre comment il peut y avoir des influences mutuelles entre mouvements et institutions. Bien sûr, les mouvements peuvent être normalisés, et c'est probablement ce qui se passe le plus souvent, mais il peut y avoir aussi une capacité de ce que les chercheurs appellent un travail institutionnel, c'est-à-dire une reformulation des institutions à travers des manières d'organiser des espaces publics autour des mouvements sociaux et de permettre à ceux-ci de faire valoir d'autres points de vue. Donc je pense qu'on est dans une situation, pour en revenir à ce par quoi j'ai commencé et pour terminer enfin, on est dans une situation de grand risque, avec à la fois le fait que ce discours de la moralisation des pauvres, qui est celui du social business, qui dépolitise la question, peut aujourd'hui prendre un tournant autoritaire. Je ne l'ai pas détaillé, mais on voit des signes de ce tournant autoritaire dans différents endroits de la planète. Et en cela, s'il y avait un tournant autoritaire, ça serait conforme aux écrits des théoriciens du néolibéralisme, puisque la grande différence entre les néolibéraux et les libéraux, c'est que Hayek et Friedman assument le fait que si un jour il faut choisir entre capitalisme et démocratie, il faut choisir le capitalisme. Et donc Hayek parle par exemple dans tous ses ouvrages de démocratie limitée, de constitutionnalisation de principes économiques, voire de démocrature, c'est-à-dire d'une post-démocratie qui limiterait la démocratie pour permettre à l'économie de mieux se déployer dans un univers concurrentiel. Donc il y a cette possibilité d'un raidissement autoritaire du néolibéralisme qui relayerait son discours de moralisation des pauvres par un discours beaucoup plus autoritaire. Et puis, de l'autre côté, il y a la possibilité d'ouverture à des avancées de la démocratisation qui permettraient à la fois de parier sur des modes d'économie qui soient des modes d'économie pluriels et en même temps de faire avancer une nouvelle conception de l'action publique qui repose sur des croisements entre pouvoir public et action citoyenne. Et autour de ces deux éléments, effectivement, peut-être se préciser une nouvelle conception du changement social qui soit plus adaptée au XXIe siècle, qui en tout cas ne se réduise pas au dualisme qui a structuré le débat du XXe siècle, marché-État, mais qui résonne de manière plus complexe en faisant intervenir le pôle de la société civile, pas simplement comme dans le scénario de moralisation des pauvres, pour lui rendre hommage pour son engagement et sa contribution au lien social, mais aussi pour ses réalisations économiques et ses demandes politiques. Donc il me semble que, du point de vue des mouvements sociaux, on est dans une phase qui est une phase d'incertitude, hein, de recomposition, hein, qui est donc une phase qui nous met en difficulté pour l'analyse, mais qui néanmoins peut être tout à fait stimulante, à condition que nous soyons aussi bien conscients des risques que nous devons affronter. Merci.
Bien. Ben, tout de suite, la parole à la salle. L'idée, c'est que vous puissiez avoir, qu'on puisse avoir un temps d'échange avec Jean-Louis pendant encore quelques minutes par rapport à tout ce qu'il vient de nous dire, des choses qui peuvent être encourageantes, d'autres choses qui peuvent nous inquiéter. Mais je pense que c'est tout ça qui est à la fois émaillé, inquiétude et espoir. Donc, je ne sais pas, c'est la parole tout à qui souhaite la prendre, questions, remarques, commentaires. Jean-Paul.
Oui, c'est simplement une petite remarque, mais c'est pour aller dans le même sens, parce que je pense qu'on est tous ici effectivement dans le même état d'esprit, la même démarche. Souvent, ce que je dis, c'est que ce qui fait peur, c'est le terme révolution en tant que tel, parce que le terme révolution fait peur effectivement à un ensemble d'une société qui est déjà dans une démarche, comment dire ça, qui lui permet effectivement d'être peut-être d'avoir une domination sur une certaine population, sur des territoires, etc. Et je dis très souvent que peut-être le terme révolution, si on enlevait le R qui est le R de résistance, il reste évolution, et que les petites effectivement évolutions pourraient permettre effectivement d'être après en eux-mêmes un changement local, mais qui, si elles sont nombreuses, peuvent être effectivement un changement global, et que du coup ce R qui pourrait être la résistance, pourrait devenir le R de rêve après, et donc pourrait effectivement permettre à tout le monde de pouvoir s'exprimer, de pouvoir effectivement être mis en valeur par des petites choses qui sont effectivement des réponses à la vie quotidienne, locale, de tous les jours, donc par cette démarche donc d'économie solidaire, quoi.
Juste pour rebondir en un instant, c'est vrai que je crois que ce qui fait l'intérêt d'un retour à l'associationnisme pionnier, au-delà des interprétations auxquelles il a donné lieu, c'est que dès le départ, justement, il n'était pas utopiste, l'associationniste, au sens où il n'était pas doctrinaire, et il ne voulait pas, contrairement aux utopistes, créer un monde parfait, il voulait faire que la société soit plus démocratique. Et donc, ce qui était posé dès le départ de l'associationnisme, c'est l'idée d'une transition, et très important parce qu'il y avait aussi la leçon tirée de 1789-1793, c'est-à-dire une transition non violente. C'est ça qu'on retrouve dans les textes entre 1830 et 1848, dans la plupart des textes ouvriers, et je pense que c'est vraiment ce pourquoi ça résonne dans la transition à laquelle nous sommes confrontés difficilement. Par contre, tout le XXe siècle a été gouverné par ce que certains auteurs ont appelé le paradigme de l'arrachement. C'est-à-dire qu'il faudrait sortir du monde tel qu'il est pour inventer un monde parfait. Et ce paradigme de l'arrachement faisait qu'on attendait l'homme nouveau, alors que si on prend l'associationnisme, c'est au contraire de travailler avec l'histoire héritée, et en même temps de démocratiser des formes d'organisation qui existent déjà. Et ça, je pense qu'on a beaucoup à apprendre aussi dans cette volonté de reprendre les formes déjà existantes de structuration de la société tout en les démocratisant. On a beaucoup à apprendre aussi de ce qui s'est passé en Amérique du Sud, dans la manière dont certaines cultures indigènes doivent pas être mythifiées, parce qu'il ne s'agit pas de dire que c'était des mondes qui étaient des mondes merveilleux, bien évidemment, mais de voir combien ils ont fouillé aussi cette question de la transition, et comment est-ce que l'on peut réintégrer la transition aussi à travers une autre vision que la vision qui a gouverné beaucoup l'Occident, qui est la vision de la coupure entre l'homme et la nature. Et là aussi, on pourrait faire tout un développement sur les bases de notre connaissance qui a été basée sur cet arrachement et sur cette coupure, mais qui a eu des conséquences épistémologiques très importantes.
Connie,
Ça marche ? Oui, magnifique. Donc, on aurait été secrétaire général de Solidar, cofondateur des services sociaux sur le plan européen et engagé dans le débat sur l'économie sociale sur le plan européen. Et bon, je vais faire deux remarques. Premièrement, ce qui me manque un petit peu dans la question des transitions et des révolutions, c'est la question qu'on oublie souvent. Je suis de notre génération, dans un certain sens aussi, comme vous, mais la question de l'émancipation de l'individu au sein de la société, l'action collective, que ce soit des CMA dans le monde de l'éducation nouvelle, que ce soit aussi l'action des syndicats, que ce soit l'action des associations, c'était quand même derrière une idée, c'est que si on veut transformer la société avec l'objectif d'être plus social, plus juste, plus équitable, bah, il fallait que l'individu ait la capacité de contribuer au changement. Et j'ai l'impression que cette idée-là, c'est-à-dire de comment rendre plus capable l'individu de s'émanciper dans un collectif au sein de société pour contribuer à un changement, ça me paraît une question que malheureusement que les progressistes ont mis un petit peu aux oubliettes ou perdues. La deuxième remarque, je suis très content sur votre intervention sur le social business. Bon, si j'étais provocateur, je dirais pourquoi vous n'avez pas mentionné mon réseau Solidar. Le village gaulois, c'est nous en Europe. Parce que les seuls qui se sont effectivement, qui ont osé à tenir la parole sur le plan européen contre cette idée de confusion entre économie sociale et solidaire, d'un part, et d'autre part, contre le social business, et là on a eu même des sommets européens, des grandes conférences à Strasbourg et tout ça, où on était mis en minorité parce que nous on était le Titanic là, de l'économie sociale, et les autres c'était les masses les beaucoup plus sexy, qui étaient séducteurs, qui se présentaient comme l'ancien patron de Apple, en disant voilà, I'm social entrepreneur. Sérieusement, qu'est-ce que ça veut dire social entrepreneur? Nous, c'est toujours l'action collective. Et en même temps, on a caché derrière cette idée de vouloir concilier le capital et le travail d'une autre manière, on a complètement caché qu'aujourd'hui, il y a une attaque générale qui vient de l'autre côté de l'Atlantique, quand on regarde notamment l'Irlande et de plus en plus aussi la Grande-Bretagne, où il y a des grands, grands capitaux qui sont en train d'investir clairement dans ce qui était nos secteurs habituels. C'était la question des services sociaux, des services de soins, qui était la question de l'éducation et d'autres. Donc, on est en plein là-dedans. Et la troisième question, mais ça, c'est gentiment posé tout à fait à la fin. Nous sommes entre convaincus, et c'est toujours adorable d'avoir ce temps entre nous. Mais comment on peut faire en sorte pour sortir dans la rue devant et pour gagner, encore une fois, sur ces questions principales, la majorité de l'opinion avec nous, pour combattre ces Le Pen et d'autres ordures qui sont en train de peser beaucoup plus sur l'opinion publique que nous le sommes capables d'une manière différente, ici, dans un amphithéâtre sympathique, mais comment peser dans le débat public sur nos convictions et sur nos idées à nous. Merci.
Moi, j'aurais voulu vous développer un petit peu le mot hybridation. Ça fait quelques années que je cherche un mot. J'ai entendu celui de créolisation, puis celui de archipélisation. J'aime beaucoup, mais je n'arrive pas bien à le prononcer. Et celui d'hybridation m'intéresse. Je crois que si on arrive à en convaincre, je vais l'utiliser dès demain.
Hello, sorry, can I speak English? Just to clarify. I'm really happy hearing you speaking about Brazil, especially that it's my personal interest, I would say. I had an opportunity to know MST movement in 2008, then observing the development of the movement through 2013, and I came back on Monday from Brazil as well, observing the resistance which is created on the basis of the recent elections and the strategies of resistance are discussed, debated within the Via Campesina of the social movements in Latin America. I just want to do one remark, because as you were saying about the political movements and the latest political movement more involved politically in Brazilian politics, for example, you mentioned that there are more strategic, more fighters, more territory linked. Nevertheless, as far as I know, it's gathered all of the movements like indigenous people movements, communities movements, quilombolas movements, or all of the movements which are related to the indigenous culture in indigenous communities. So the not culture movements, I'm not sure in this case can be applied strictly or only to simplify that? And the second part is, what do you think about the strategies of resistance, taking into account the recent elections, and what will be the future of those movements in a few, maybe 1-2 years? Just thank you.
Donc merci pour cette question que je suis incapable de traduire. Mais c'était merci beaucoup, hein, c'est pour cette question. Est-ce que quelqu'un est en capacité de résumer ce qui a été dit?
Donc en version extrêmement résumée de la question, désolé.
Oui, non, mais merci beaucoup.
Chercher d'autres casques pour aller vers le français, mais il n'y en avait plus qu'un. Donc la question, c'était sur l'avenir des mouvements sociaux, étant donné que vous avez retracé leur historique et qu'aujourd'hui, nous voyons des mouvements comme la Via Campesina, nous voyons des mouvements de résistance qui émergent et des mouvements en Amérique latine. Donc est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur les stratégies possibles pour organiser cette résistance? Notamment, on a vu par rapport à certaines élections également que vous avez mentionné, les transitions de certains pays en Amérique latine. Est-ce que vous pourriez en dire plus sur cette résistance? Et donc l'identité culturelle des nouveaux mouvements, selon vous, étant donné que maintenant ils se rassemblent, nous voyons des identités comme les peuples indigènes et les communautés alternatives, le nom des quilombolas, si vous connaissez.
Merci beaucoup.
Oui, par rapport à vos trois questions, je pense que tout le problème, c'est justement de reformuler la question de l'émancipation en la sortant du paradigme de l'arrachement, puisque si on regarde comment l'émancipation a été pensée, c'était justement par un homme nouveau. Or, c'est de ça dont il faut sortir, ce qui ne veut pas dire sortir d'une ou une femme nouvelle, mais c'est plutôt un homme quand même dans les textes. C'est pas hasard, si vous voulez, que les femmes disparaissent du mouvement ouvrier en France en 1848. Et ça, c'est assez étonnant de voir comment est-ce qu'il y a une différence après 1848 par rapport à la période antérieure. C'est, je crois également, le fait que nous renouons avec une pensée de l'émancipation qui, là aussi, me semble, de manière pertinente, peut être rapprochée de ce qui avait été tenté auparavant. C'est pas hasard pour moi que c'est aussi Leroux qui introduit en français cette notion de pouvoir d'agir. Hein, il définit la liberté comme le pouvoir d'agir, comme il définit la solidarité comme l'action collective entre citoyens libres et égaux. Donc je crois que, en gros, nous devons sortir de la pensée du second 19e siècle pour voir comment la pensée du premier 19e siècle peut aussi nous aider à penser les défis du 21e siècle. Hein, c'était ça un peu l'idée. Sur le social business, alors je crois que là, nous avons des responsabilités au niveau du monde de la recherche, du monde de associatif également. Pourquoi? Parce que, pour l'instant, nous n'avons pas été en mesure d'établir véritablement un observatoire du social business, par exemple. On nous parle à longueur de magazines et de journaux de l'expérience de Veolia et de Danone. Les seuls éléments indépendants dont on peut disposer montrent que ces deux expériences sont des échecs. De la même façon, nous ne sommes pas en mesure aujourd'hui de faire, du point de vue associatif, un suivi d'un certain nombre d'intervenants qui ont pris aujourd'hui la responsabilité d'activités sociales à travers une logique qui est une logique de social business. Et donc, ce discours selon lequel l'économie sociale et solidaire, les associations, c'est ringard et dépassé, et le nouveau monde, c'est le social business, est d'autant plus facile à diffuser que nous n'avons pas d'éléments factuels à y opposer. Et je crois que c'est vraiment très important de se poser la question de quelle méthode, quelle façon on peut aussi observer dans la durée, parce que c'est une économie de la promesse. On nous promet que tous les problèmes seront résolus. Mais qu'est-ce qui se passe 1, 2, 3, 5 ans après que ces activités aient été mises en place? Et là, il me semble qu'il faut que l'on y réfléchisse pour voir ce qu'il est possible de faire pour rendre compte de la réalité de ces expériences et non pas de leur présentation promotionnelle. Ensuite, ça rejoint un peu la question que vous posiez, c'est la question de comment est-ce que l'on peut sortir des cercles de convaincus dans lesquels nous sommes et comment est-ce que l'on peut aller vers des stratégies de résistance qui soient aussi des stratégies qui permettent d'aller vers le changement. Là, je crois que, effectivement, l'expérience brésilienne nous fait beaucoup réfléchir. Nous fait beaucoup réfléchir parce que là, il y a différents niveaux de problèmes. D'abord, la situation reste plus mélangée qu'elle n'est généralement présentée. Certes, il y a eu un succès électoral de la droite extrême, mais en même temps, il y a déjà des formes d'organisation et de résistance qui sont très fortes. Moi, j'ai eu la chance de participer à la manifestation des femmes à Salvador de Bahia. Il y avait énormément de monde. Quelques jours plus tard, il y a eu une manifestation contre Bolsonaro qui a réuni des centaines de milliers de personnes. Et il faut rappeler que dans tout le nord-est du Brésil, le vote Bolsonaro est extrêmement minoritaire, puisque, pour prendre l'exemple de Salvador de Bahia, que je connais un peu moins mal que les autres, c'est 70% contre Bolsonaro. Donc, ce qu'ils sont en train d'essayer de faire, puisqu'on a discuté toute la journée avec des gens de Salvador, c'est d'abord ne pas prêter le flanc à ce qu'il puisse y avoir des individus isolés qui puissent être mis en danger. Donc, essayer dans certaines institutions, d'avoir des démarches extrêmement collectives qui vont à l'encontre de tentatives d'isolement. Par exemple, dans l'université, il a été conseillé aux étudiants de ne pas hésiter à filmer par le téléphone les professeurs qui auraient des opinions politiques pour que ceux-ci soient condamnés. Et donc là, il y a une organisation collective dans l'université pour répondre à cela. Ça ne résout pas tous les problèmes, bien évidemment, mais on voit bien qu'il y a des possibilités d'institutions qui vont être des contrepoids, quand même, dans cette situation très difficile. Il faut bien voir que, dans le Nord-Est, les élections ont donné aussi la majorité aux opposants à la droite extrême. Donc, il y a ces premiers éléments. Après, il y a des choses qui sont très difficiles, qui amènent aussi tout un ensemble de réseaux à se poser la question de l'intervention sur les réseaux sociaux, puisque ce qui s'est quand même passé au Brésil, c'est qu'il y a eu 12 millions, d'après ce que l'on peut identifier, 12 millions de messages qui ont été renvoyés par WhatsApp la veille de l'élection, avec un ensemble de fake news qui ont visiblement eu des effets, et ça a été financé par des entreprises. Et donc il faut essayer aussi de voir quelles ont été les modalités de financement exactes, ce qui n'est pas du tout évident, et puisque l'une des questions posées était celle de la corruption, eh bien effectivement voir d'où est-ce que ça vient. Ce qu'il faut voir également, je crois, par rapport à la question nous occuper, c'est que il y a beaucoup plus qu'en Europe aujourd'hui, dans des pays comme le Brésil, des liens entre mouvements indigènes, mouvements noirs, mouvements des femmes et économie solidaire. Ce que l'on a encore très peu en Europe, c'est beaucoup plus prononcé aujourd'hui, puisque, par exemple, certains candidats du mouvement noir à Salvador, dans les dernières élections locales, avaient dans leur programme électoral le développement de l'économie solidaire. Et donc, on voit bien qu'il y a une articulation entre ces mouvements qui sont des mouvements culturels, identitaires, de reconnaissance, mais qui ont aussi, aujourd'hui, un aspect économique, et donc ce pont entre mouvement citoyen et pensée d'une autre économie, il est présent plus fortement qu'en Europe, où les divisions sont beaucoup plus fortes, me semble-t-il. Il faudrait voir quel est l'héritage historique qui peut l'expliquer. Donc je crois que y a cette situation qui est une situation très difficile dans un certain nombre de pays. Et puis, il y a l'accélération aussi de la manière dont il peut y avoir une détérioration, dont on voit bien aujourd'hui en Europe, que l'on peut également en être victime demain. On le voit déjà en œuvre dans certains pays. On voit bien qu'il peut y avoir une évolution de ce type, parce que ce qui s'est passé au Brésil, c'était absolument impensable dans le même pays il y a 5 ans.
Alors, on va prendre une dernière question, parce que le temps... Alors, deux dernières questions, mais rapides, parce que le temps passant et qu'on soit pas enfermé dans le CNAM. Oui.
Merci bien, professeur Laville. J'ai bien apprécié votre approche historique et sociologique, très panoramique. Ma question en relation avec le mouvement français Gilets jaunes. Comment on peut interpréter dans le cadre que vous avez présenté ce type de mouvement? Merci.
On va prendre la dernière question, là-haut, tout en haut. Voilà, et après on s'arrêtera sur ces deux questions, on laissera Jean-Louis répondre et après on se dirigera vers la table d'Eli s'il y en a qui en veulent.
Oui, bonsoir. J'ai beaucoup aimé votre référence au fait que on pouvait plus analyser le monde, enfin, je ne sais pas si on a pu un jour, hein, mais d'un point de vue eurocentré ou civilisationnocentré, qu'on n'avait rien à apprendre des autres. Donc en fait, le renforcement des capacités de chacun vient de l'échange. Je crois qu'il a toujours été, ça a toujours été le cas, mais on ne l'a pas pris en compte. Mais donc pour continuer dans cette ligne-là, comment est-ce que vous faites avec tous vos collègues des autres disciplines scientifiques par rapport aux questions planétaires, écologiques, thermodynamiques, anthropiques, collapsionnistes, etc. Comment est-ce que vous continuez à travailler tout ça dans la temporalité, sachant que ça interfère avec tout le reste et que systémiquement, c'est très complexe, quoi.
Sur le mouvement des Gilets jaunes, c'est ce que j'essayais de résumer au départ, c'est-à-dire que je pense qu'on est dans une période où on doit faire droit aux ambivalences et que les certitudes d'interprétation, effectivement, ne sont plus de mise. Dans ce contexte-là, moi, je pense qu'il est surtout important de valoriser les émergences démocratiques. Et donc, au sein du Gilet jaune, il y en a, comme il y a l'inverse. Hein. Et donc, je crois que dans ce mouvement qui est composite, voire contradictoire, ça peut être intéressant de repérer, par exemple, tout ce qui est de l'ordre de ces émergences démocratiques. Je pense à des textes comme l'appel de Commercy, qui me semble très intéressant sur la représentation du mouvement qu'il propose. Et donc, l'idée, ça serait plutôt d'essayer de voir, dans la difficulté de ce qui émerge, ce qui peut être de l'ordre de l'émergence démocratique, parce que sinon on peut condamner tout ce qui émerge comme étant effectivement ambivalent. Ce que j'ai essayé de présenter, c'est une position qui justement admet l'ambivalence et essaye de travailler plutôt avec les composantes démocratiques de cette ambivalence, hein, pour voir comment il est possible d'élargir ces émergences démocratiques. Ça, c'est quelque chose que moi j'ai appris du Sud, à travers ces ouvrages, et ça répond un peu à votre question épistémologique que je ne saurais épuiser. Hein. Je crois que ce qui a été désigné comme épistémologie du Sud, hein, c'est-à-dire tout ce travail de déconstruction du savoir occidental et de quoi il est formé, en présentant finalement une position particulière comme l'universalisme, je pense qu'il faut arriver effectivement à travailler là-dessus. Hein, et travailler là-dessus, ça veut dire en termes sociologiques, puisque je me contenterai de la discipline dans laquelle j'essaie tant bien que mal de m'inscrire, c'est travailler sur les absences, hein, c'est-à-dire quels ont été les phénomènes sociaux qui ont été rendus invisibles dans l'histoire. Hein, et ça, ce n'est pas quelque chose qui est lié uniquement au Sud, c'est-à-dire que dès qu'on s'interroge dans ces termes-là, on voit bien qu'en Europe, on a eu aussi des pans de la réalité qui ont été invisibilisés. Donc retravailler sur les absences, sur les raisons de ces absences, sur la genèse de ces absences, et travailler donc sur les émergences démocratiques. Et il me semble qu'à partir de ça, on peut essayer de se retrouver de manière pluridisciplinaire. Et on voit bien les difficultés qu'il y a à prendre en compte un certain nombre de dimensions. Par exemple, pour prendre l'un des chapitres du livre que je citais, sur les mouvements d'agroécologie, il y a à la fois des savoirs paysans, il y a à la fois des savoirs scientifiques agronomiques, mais il y a aussi des savoirs de sciences sociales qui peuvent avoir un rôle. Donc je pense que le défi, c'est celui d'un croisement des savoirs et comment organiser dans des processus concrets ce croisement des savoirs, ce qui est loin d'être évident.
Eh bien, merci beaucoup. Merci beaucoup, Jean-Louis. Je vous propose qu'on s'en arrête là pour ce soir.